Nous sommes votre radio de proximité, votre radio communautaire francophone qui compte plus d'une quinzaine de bénévoles et une dizaine d'employés. Nous sommes Acadie.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La Société nationale de l'Acadie a présenté mercredi matin un mémoire sur l'immigration francophone en Atlantique. Le but étant de réagir sur les actions posées par le gouvernement fédéral en matière d'immigration francophone. Présentement avec Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie, pour en parler un petit peu plus. Bonjour Martin.
Bonjour, merci de l'accueil.
Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir du mémoire sur l'immigration francophone?
Bien, il y a plusieurs éléments dans le mémoire, là, puis on pourra en parler en plus de détails, mais ce que l'on souhaite, ce sont certains éléments principaux qui sont, et puis ça, c'est les demandes de la Fédération des communautés francophones et acadiennes qu'on appuie pleinement, mais il faut accroître, il faut augmenter le nombre d'immigrants francophones qui viennent dans nos communautés. Il faut qu'on puisse, nous aussi, maintenir notre poids démographique et qu'on ait ces gens-là qui viennent s'intégrer à notre communauté pour assurer la vitalité des communautés. Hein. Ces gens-là ne sont pas que des statistiques, ce sont des gens qui contribuent à notre économie, à notre santé, à notre éducation et ainsi de suite. Et donc, il faut accroître, il faut augmenter le nombre d'immigrants dans nos régions. L'autre élément principal, c'est tout l'aspect du ce qu'on appelle le par et pour. C'est-à-dire que dans nos communautés, on a tout plein de systèmes, de services, d'infrastructures pour appuyer les immigrants. On sait ce qu'on a besoin dans nos propres communautés. Et donc, on veut, nous, travailler avec les gouvernements pour que ce soit des programmes des communautés qui effectuent le travail en immigration pour l'accueil des immigrants. Comme ça, on est beaucoup plus connecté aux besoins de la communauté. Et on est aussi beaucoup plus connecté à ces immigrants-là. On peut mieux gérer les attentes, on peut mieux gérer leur processus d'intégration, et donc ça, c'est important. Et le troisième élément plutôt général que je mentionnerais, c'est la question de diplomatie. C'est un grand mot, ça, là, mais ce que je dis, en fait, ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas traiter l'immigration en vase clos. L'immigration ne peut pas être un dossier que l'on traite à part et indépendamment des autres dossiers. Par exemple, le voyage que la Société nationale de l'Acadie a fait en France en novembre dernier, ben ça, c'est de la diplomatie. Ça contribue à présenter l'Acadie comme étant un endroit où il fait bon vivre. Ça contribue à donner une belle image de l'Acadie. Et ça, il faut que ce soit aussi ce genre d'initiative-là. Il faut que ce soit aussi appuyé en parallèle ou en complément à ce qu'on fait en immigration. Il faut pas juste faire de l'immigration comme étant quelque chose de séparé.
Excellent. On veut que les gens viennent nous voir. Venez nous voir. C'est ça le grand slogan.
Venez nous voir, puis on veut qu'ils nous connaissent, en fait. Ça passe par là.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, le mémoire comporte plusieurs recommandations de la part de la SNA. C'est quoi les recommandations en matière d'immigration chez vous?
Bien, si je prends les principales, comme je viens de dire, bon, la diplomatie, il existait en 2003 un programme qui s'appelait Programme de diplomatie ouverte. 2003, ce programme-là a été aboli et depuis ce temps-là, il n'y a pas d'autres programmes qui existent équivalents ou qui ont compensé cette perte-là. Et donc, c'est très difficile pour des organismes comme la SNA et bien d'autres d'aller faire du démarchage et de la promotion à l'international. C'est extrêmement compliqué. Il y a des règles, il y a des ci, il y a des ça. On ne peut pas prendre des argents gouvernementaux qui nous sont donnés. Il faut générer d'autres revenus pour le faire. Donc, ça prend un programme de diplomatie, puis que ce programme-là soit... en fait, ce programme-là doit reconnaître la capacité à mener des actions à l'international comme étant une source de développement, mais aussi d'épanouissement de nos communautés. Puis il faut que ce programme-là soit, comme je l'ai dit, en parallèle à un programme en immigration. Une autre de nos recommandations, c'est par rapport à la reconnaissance des compétences. On appelle ça des titres de compétences. En gros, c'est les diplômes. Qu'une infirmière qui a étudié en France puisse arriver ici sans avoir à repasser tous les examens et le processus, par exemple. Et puis ça, c'est dans plusieurs ordres professionnels. Donc, nous, on demande que le gouvernement fédéral agisse immédiatement en travaillant avec les associations professionnelles pour faciliter la reconnaissance des diplômes des immigrants étrangers. Il y a un besoin criant aussi, puis c'est une autre de nos recommandations, un besoin criant d'apprentissage de l'anglais. Les immigrants arrivent chez nous, ce sont des immigrants francophones, ils s'intègrent à la communauté francophone, mais il ne faut pas se leurrer. Dans nos communautés, il faut aussi parler l'anglais. Et donc, on demande au ministère, là, à IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, IRCC, on leur demande qu'ils aident nos partenaires communautaires et ses partenaires communautaires à faciliter les cours d'anglais pour les immigrants francophones. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse, un petit bémol. Plusieurs personnes vont réagir à ça puis dire, ben non, si on leur apprend l'anglais, ils vont s'assimiler, puis ils vont vivre dans la communauté anglophone plutôt que la communauté francophone. Ben ça, c'est pas vrai, c'est un mythe. Les études, les recherches démontrent très bien que l'apprentissage de l'anglais, non seulement appuie leur intégration économique, mais en plus de ça, n'a pas d'impact sur la langue qu'ils vont utiliser nécessairement. Ils vont continuer à parler français, même s'ils apprennent l'anglais. Une autre de nos recommandations est principalement par rapport aux étudiants internationaux, mais pas seulement, c'est toute la question d'application à la résidence permanente. Je prends l'exemple des étudiants internationaux. Ils représentent une catégorie immigrante qui est qualifiée et formée au Canada. Donc, tu arrives du Cameroun, par exemple, tu vas étudier à l'Université de Moncton ou à UNB, peu importe. Donc, il faut que tu aies un visa d'études pour avoir le droit d'aller étudier. Déjà, ça, c'est très, très difficile à obtenir. Il y a plusieurs étudiants qui sont acceptés dans nos écoles, dans nos institutions francophones, puis qu'après ça, n'obtiennent pas le visa de travail. Mais en plus de ça, on les forme chez nous. Ils ont l'accréditation, si on veut, canadienne. Et puis après ça, il faut qu'ils appliquent pour la résidence permanente. Même s'ils ont étudié ici, ça leur garantit pas la résidence permanente. Et c'est très difficile d'avoir la résidence permanente. Donc, il y a plein d'étudiants qui viennent étudier ici, puis qui se voient ensuite refuser la résidence permanente. Ils n'ont pas le droit de travailler ici. Ils doivent retourner dans leur pays. Donc, c'est un peu un investissement manqué. Et donc, nous, on demande au gouvernement qu'il y a du travail soit fait le plus rapidement possible pour rectifier la situation, puis d'accroître le nombre de demandes acceptées. Et tout ça, j'ai dit pour les étudiants internationaux, là, mais c'est vrai pour tout le monde. Il y a tellement de gens qui appliquent, qui veulent venir chez nous, qui ne demandent que de contribuer à notre communauté, puis qui voient leur demande de résidence permanente refusée. Puis ça, c'est une aberration. Il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Donc ça, ce serait, je dirais, nos recommandations principales.
Excellent. Ça ouvre vraiment les yeux sur la situation en ce moment. Et quelque chose qui a attiré mon attention, la reconnaissance des diplômes, est-ce que c'est quelque chose qui revenait souvent à la SNA? Est-ce qu'on vous demandait d'aider les gens à propos de ça?
J'ai la chance et j'ai eu la chance présentement à la SNA, mais dans mes expériences passées aussi, j'ai eu la chance de travailler, de voyager partout à travers le Canada. Et combien de fois on se retrouve à l'aéroport de Toronto que notre conducteur de taxi est gynécologue, que la personne qui nous accueille à l'hôtel, en fait, était dentiste dans leur pays. Combien de fois on voit ça? J'ai parlé, entre autres, à un conducteur de taxi qui, comme je viens de l'utiliser en exemple, était gynécologue. Lui et sa conjointe, ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient pour avoir leurs compétences reconnus au Canada. Ils avaient dépensé entre les deux 200 000 $ pour repasser des examens et c'était toujours pas fait. Ce genre d'histoire-là existe beaucoup trop souvent. Ce sont des gens, on a une pénurie de médecins, on a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Ce sont des gens qui ne demandent que ça, encore une fois, que de travailler chez nous, que de travailler avec nos communautés, de s'intégrer, de contribuer. Et ils peuvent pas travailler dans leur domaine. Puis après 1 an, 2 ans, 3 ans d'avoir essayé puis de pas avoir réussi, bien, ils retournent dans leur pays. Puis ça, c'est inacceptable.
Donc, selon vous, aider les gens à avoir une reconnaissance de diplôme ici, ça aiderait à la pénurie de main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick?
C'est prouvé, ça aiderait. Et nous, on est en train, là, on a réussi à avoir un peu de financement pour effectuer une étude. En fait, on est en train de faire une étude de faisabilité pour un centre d'expertise, de reconnaissance des acquis, de reconnaissance des compétences. Donc, qu'on puisse dire, ben, tel diplôme, c'est équivalent à tel diplôme ici. Et puisqu'on aura fait ce travail-là, cette recherche-là, ben, on pourra automatiquement reconnaître l'équivalence. On est en train d'étudier la faisabilité de ce genre de chose-là, parce qu'on le reconnaît comme étant primordial. Puis c'est pas primordial au Nouveau-Brunswick. La SNA gère le comité atlantique en immigration francophone et tous nos partenaires de l'Atlantique des quatre provinces nous le disent. Et puis on sait, là, de par nos partenariats, nos collègues, nos collaborations, c'est un problème partout à travers le Canada. C'est pas un enjeu du Nouveau-Brunswick, c'est un enjeu d'immigration et c'est une priorité.
Effectivement, c'est pas juste au Nouveau-Brunswick, mais bien partout. Et si on revient aux mémoires, c'est quoi les réactions que vous attendez? Surtout, quelle action voulez-vous voir avec la sortie de votre mémoire?
Bien, il y a plusieurs réactions à notre mémoire et je tiens à le dire, là, la plupart des réactions sont très positives. Et nous, à la SNA, on travaille avec les gouvernements provinciaux, on travaille avec le gouvernement fédéral et tout le monde le sait, il y a urgence d'agir. On est en train de perdre du terrain. En 2003, on avait émis la cible de 4.4% d'immigration. Donc ça veut dire que sur 100 immigrants qui arrivent, en fait, je vais dire sur 1000 immigrants qui arrivent au Canada, il devrait y en avoir 44 qui sont intégrés dans les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Donc, pour 1000 immigrants francophones, il devrait y en avoir 44 qui vont dans les communautés francophones. Ça, c'était une cible qui avait été reconnue par le gouvernement en 2003. Ça devait être fait avant 2008. Et puis, ça a été repoussé à 2023. Et depuis 2003, quand on l'a établi, cette cible-là, on n'a jamais même atteint la moitié de la cible. On n'a jamais atteint même 2% de cette cible-là. Tout le monde reconnaît que c'est important. Tout le monde reconnaît qu'on doit faire du travail en immigration francophone. Là où on a du mal, c'est sur le comment on va y arriver. Je tiens à dire aussi qu'à la SNA et dans la communauté en général, on a fait énormément d'avancées. On a mis en place des services spécialisés. On a accru les activités de promotion. On a sensibilisé des communautés d'accueil. On a consolidé des instances de concertation. On a un engagement accru des gouvernements provinciaux, mais du gouvernement fédéral aussi. Et donc, le terrain est maintenant prêt. Il faut aller de l'avant. Comme je le disais, la plupart des gens à qui on parle le reconnaissent qu'il faut aller de l'avant. Là où on a du mal, c'est de savoir comment on le fait. Puis c'est pour ça qu'on a émis notre mémoire, puisqu'on a comparu mercredi là, au comité permanent des langues officielles pour dire c'est criant, c'est majeur, il faut le faire maintenant.
Et justement, pour terminer, en fait, pour aller de l'avant, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Est-ce que ça va se rendre jusqu'à Justin Trudeau, par exemple?
Bien, le comité permanent est en train de faire une étude. Ils sont en train de réfléchir ou de réagir, si on veut, pour la mise en place d'une stratégie en immigration francophone. Et donc, cette stratégie-là, qui relèvera fort probablement d'IRCC, l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, c'est le ministère fédéral qui gère tout ce qui est l'immigration. Cette stratégie-là relèvera de ce ministère-là et travaillera, on le souhaite, on l'espère et on l'attend avec impatience, travaillera avec les communautés acadiennes pour assurer une meilleure immigration. C'est une stratégie qui est en train d'être développée et d'être mise de l'avant là, prochainement, on l'espère.
Et pour tous ceux qui veulent vous suivre, est-ce qu'il y aura des nouvelles là-dessus? Est-ce que des nouvelles seront publiées, par exemple, sur vos réseaux sociaux?
Oui, absolument. On y travaille très fort. C'est un dossier permanent. Hein. Vous pouvez aller voir le site web de la SNA, là, snacadie.org. Vous avez l'onglet immigration. Vous avez toute l'information là. Vous pouvez suivre, vous abonner à notre infolettre et ainsi de suite. On est sur les médias sociaux. Dès qu'il y aura des nouvelles dignes de mention, on va publier sur le sujet et on va continuer aussi à travailler avec nos collègues des réseaux en immigration au niveau provincial, mais aussi avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes au niveau national. C'est un travail de concertation qui se fait et on talonne les gouvernements pour qu'il y ait une action rapide là-dessus. Quand il y aura des nouvelles, on va les partager assurément.
Et voilà un sujet de grande importance. Merci beaucoup, Martin Théberge, d'avoir passé un petit moment avec moi. On suit ça de très près, bien évidemment, et je vous souhaite une excellente journée, un beau vendredi.
Merci à toi, Judy, puis salutations à tous les auditeurs.